Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, notre première destination aujourd'hui est la Tunisie. Après le limogeage du chef du gouvernement tunisien, c'était ce week-end, et bien le président Kais Saied a décidé de se séparer de plusieurs hauts fonctionnaires qui étaient très proches de la présidence, par exemple le secrétaire général du gouvernement, le président de l'instance générale des résistants, le directeur de cabinet du chef du gouvernement, ainsi que plusieurs conseillers, des chargés de mission ou encore le procureur général de la justice militaire, qui ont donc été remerciés de leur fonction. Actuellement, le président Saied réfléchit à la façon dont il va pouvoir reconduire un gouvernement, une équipe gouvernementale, mais cette fois-ci avec un nouveau Premier ministre. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom de celui ou de celle qui sera à la charge suite à cette décision du président Saied. On peut signaler que le mouvement d'opposition dirigé par Ranouchi Ennahda a décidé d'appeler le président à revenir sur les décisions qui ont été les siennes ces derniers jours. Ennahda dit qu'il va militer pacifiquement, ce sont les mots qui sont les siens, pour faire échouer ce projet. Aujourd'hui, beaucoup d'interrogations dans la classe politique tunisienne quant au devenir, avec, c'est vrai aussi, d'abord beaucoup de focalisation sur qui sera le prochain Premier ministre et surtout quelle sera la direction qui sera conduite par le président tunisien. On peut signaler que celui-ci a reçu hier en audience, c'était au palais de Carthage, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, qui était porté d'un message du roi du Maroc, du roi Mohamed VI. Au Maroc, il y a eu cette réunion du conseil du gouvernement qui a décidé de proroger jusqu'au 10 septembre prochain l'état d'urgence sanitaire. C'est vrai que les derniers chiffres quant à la progression du coronavirus sont préoccupants, donc il faut prendre des mesures qui engagent la sécurité collective face à cette flambée de contamination. Il a été décidé d'élargir le bassin de vaccination aux jeunes qui sont âgés entre 25 et 29 ans. Les campagnes de sensibilisation, de conscientisation se multiplient toujours autour de ces gestes barrières si importants. Ils ne coûtent rien, c'est un peu de vigilance et de prévenance et cela permet de faire reculer la pandémie de coronavirus. Une image dure, à la fois émouvante, à la fois terrifiante en Algérie, c'est cet homme qui repose sur l'épaule, sur un lit d'hôpital, dans un couloir. Il n'a pas pu être accueilli puisque l'hôpital où il venait se faire soigner pour le coronavirus est saturé. Une bouteille d'oxygène, une vieille bouteille, a été placée également dans le couloir pour empêcher cet homme de mourir et l'aider à faire face à cette pandémie qui met à mal le système sanitaire hospitalier algérien. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, des mesures tout à fait significatives ont été prises en Algérie. 35 wilayas sont mobilisées. Il y a eu ce nouveau record de cas positifs, un cas qui n'avait jamais été vu depuis février 2020. C'est tout à fait préoccupant, mais les personnels algériens sont toujours là pour lutter avec les maigres moyens qui sont les leurs, lutter contre la pandémie. On peut rappeler hier que c'est un hôtel qui a également été réquisitionné pour pouvoir accueillir des personnes frappées par le Covid. L'Algérie aussi qui a expulsé 1200 migrants qui étaient d'origine ouest-africaine, essentiellement des Nigériens, donc qui ont été reconduit vers le Niger. C'est l'Organisation internationale des migrations qui vient de révéler cette information. Rappelons que les organisations humanitaires algériennes et internationales ont souvent accusé les autorités d'Alger de renvoyer des gens dans des conditions très difficiles à travers le désert, parfois avec des accusations d'abandon de ces populations qui voulaient rejoindre l'Europe. Prudence, parce que l'information n'a pas été confirmée, mais tout porte à croire que Mohamed Al-Kani, le commandant de cette milice dite Al-Kani en Libye, a été tué. Il aurait été abattu alors qu'il résistait à son arrestation à son domicile de la ville de Benghazi. Al-Kani, un homme de sinistre réputation, il a fait régner la terreur durant des années à Tarouna. On y a découvert des fosses communes avec 300 cadavres. Il a fait beaucoup d'argent en trafiquant des êtres humains qui voulaient rejoindre l'Union européenne, des migrants clandestins. Également, il a eu des pratiques de raquettes, de vols. Enfin, les frères Al-Kani, dont Mohamed était le chef de la milice, ont véritablement fait régner la terreur. A priori, il aurait été tué. L'information est quasiment confirmée puisqu'il y a eu ces mouvements dans la ville de Tarouna où on a vu des gens sortir dans la rue pour célébrer la mort de ce tyran. Il aurait été abattu. La Libye, c'est également le chef d'état-major général de l'armée libyenne qui s'est rendu à Moscou. C'était une visite officielle qui faisait suite à une autre délégation qui, celle-ci, était conduite pour le compte de Haftar, donc qui aussi s'est rendue à Moscou. Deux délégations qui se sont succédées dans la capitale russe, vraisemblablement, pour parler de la situation sécuritaire et du processus politique en cours sur l'ensemble du territoire national libyen. L'actualité économique en Mauritanie, c'est la Sonelgaz qui a signé un protocole d'accord avec la société mauritanienne d'électricité, Somelec, signature d'un accord visant à renforcer la coopération entre ces deux entreprises dans le secteur de l'énergie. Ceci vient après, il faut s'en souvenir, c'est en février 2019. Il y avait eu aussi une signature qui avait engagé le groupe mauritanien HB, toujours sur des projets énergétiques et de commercialisation d'équipements électriques algériens. A signaler dans le monde arabe que le commandant de la force d'élite iranienne, Al-Quds, a effectué une visite très discrète, certains disent même une visite secrète à Bagdad, et ceci quelques heures seulement après que le président Joe Biden ait pu s'entretenir avec le premier ministre irakien pour annoncer la fin des opérations de combat de l'armée américaine en Irak. Alors pourquoi cette visite immédiate de la brigade Al-Quds et de son général à Bagdad? Certainement pour parler de la redéfinition des rapports de forces militaires en Irak. On sait que l'Iran est extrêmement influent via beaucoup de milices qui opèrent, si ce n'est en son nom, en tout cas en parfaite corrélation avec l'idéologie qui est la sienne, d'où cette visite qui tendrait à être confirmée dans les prochains jours, celle du commandant de la force Al-Quds à Bagdad. L'armée israélienne a formé une nouvelle unité de combat, celle-ci en prévision d'une guerre future contre le Hezbollah. Ce sont des médias israéliens qui l'ont rapporté. C'est une unité qui avait déjà été annoncée en 2019 et qui avait été présentée comme ayant des capacités secrètes. Là, ce dont on parle, c'est d'une unité numérotée 888 et nommée Ghost, donc futur, et qui combine des capacités dans le secteur du renseignement et du tir aérien. Alors, c'est aussi que ça fait beaucoup de publicité pour une entité qui est supposée être secrète. Donc, on peut aussi se dire que cette annonce s'inscrit dans le cadre de la guerre psychologique qui existe aujourd'hui entre Israël et les factions palestiniennes et les mouvements tels que le Hezbollah qui soutiennent également ces factions palestiniennes. On reste toujours au Liban, d'un mot pour dire que le ministre allemand de l'Intérieur a interdit trois entités sur le territoire national allemand qui collectaient des fonds pour le Hezbollah libanais.
Attaque, combat, guerre.
Notre destination aujourd'hui ne nous est pas inconnue puisque l'on va revenir dans le camp d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie, où sont toujours retenus des prisonniers qui ont appartenu au groupe Daesh. Il y a eu cette opération de sécurité des FDS au début de l'année pour essayer de faire en sorte que ce camp ne soit pas un état dans l'état de gens qui sont toujours affiliés ou en tout cas sympathisants de l'idéologie du groupe État islamique. Et pourtant, malgré cette intervention des FDS qui visait à faire le ménage, entre guillemets, il y a toujours des meurtres. Le nombre d'assassinats dans le camp au cours des deux derniers mois a atteint 20 personnes. Également, il y a des tentatives de meurtre, parfois au couteau, parfois des passages à tabac, notamment celui de cette réfugiée russe de 36 ans qui est connue, qui s'appelle Elena Alexander et qui appartient donc à ces familles de militants du groupe État islamique. Elle a 4 enfants. Elle a été poignardée et battue à coups d'objets tranchants. Cela s'est passé à l'intérieur même du camp. De nombreux Syriens ont quitté ce camp, des Syriens qui étaient donc prisonniers, mais qui ont réussi à partir. C'est un camp qui aujourd'hui est composé de 9 sections. 8 d'entre elles sont destinées aux réfugiés irakiens, d'autres sont destinés aux réfugiés internes syriens. Il y a aussi le cas des familles qui ont été amenées par les combattants étrangers qui sont venus d'Europe, d'Amérique, d'Europe de l'Est, également de l'Asie. On peut se rappeler que depuis 2021, les cellules dormantes du groupe État islamique ont tué 47 personnes à l'intérieur du camp, dont 12 au cours de la première année. C'est un bilan éminemment lourd que l'on observe en ce début d'année 2021. 20 personnes tuées, cela dit, la gravité, la tension qu'il y a à l'intérieur même de ce camp qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.